kiss your face, turn your cheek, lay your head down, lay your head down, lay your head down, lay your head down.
Dans le studio de Erdiwa à Luc sur la fréquence 101.7, je reçois aujourd'hui Aline pour nous parler d'un endroit, un lieu de vie assez atypique qui se trouve sur notre territoire, à Boulk plus précisément. Il s'agit de la baie champêtre. Salut Aline.
Salut.
La baie champêtre est donc un verger maraîcher où cohabitent joyeusement légumes, plantes aromatiques, fruitiers et vie sauvage. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce fameux lieu, de son histoire et de tout ce que l'on peut y trouver ? Car de mes connaissances, c'est un lieu rempli de richesses diverses et variées. Donc on t'écoute.
Alors oui, l'aventure a commencé il y a 5 ans. Donc après un BPRA et après avoir eu deux petites filles, j'ai eu l'opportunité de pouvoir acheter un terrain d'un hectare pas loin de ma maison. Voilà, alors l'idée, ça a été assez vite de créer une genre de forêt-jardin. À la base, je n'étais pas partie sur le maraîchage, mais vraiment sur les cultures vivaces, donc l'association multi-étagée d'arbres, grands arbres fruitiers, de petits fruits, de plantes aromatiques, voilà, et de faire des transfos autour de ces productions-là. Donc à 2017-2018, j'ai pu acheter ce terrain. J'ai lancé en même temps un financement participatif où il y a pas mal de personnes qui ont parrainé des arbres. Donc dans mon verger, il y a pas mal d'arbres qui ont des petites pancartes avec des noms qui ont été donnés. Et les gens peuvent voir grandir leurs arbres. Donc voilà, il y a eu ce financement participatif. Donc j'ai fait la plantation d'arbres fruitiers, petits fruits, la première année. Et en parallèle, donc ça prend du temps pour produire. Donc la première année, j'ai pas eu de production sur ces cultures-là. Mais en parallèle, j'avais lancé un peu de maraîchage côté maison, parce que j'ai un terrain de 2000 m² côté maison. J'avais fait un grand potager. J'ai commencé à vendre le surplus. Donc les premières années, j'ai pu faire quelques transfos autour de légumes. Donc, je fais des pickles, des courgettes apéro, des pestos. Et j'ai vendu le surplus de légumes. Donc, j'ai commencé à vendre des paniers. Je me suis rendu compte que le maraîchage, ça me plaisait aussi. Donc, dans mon verger, après, j'ai rajouté, entre les rangées de plantes vivaces, de fruitiers, j'ai inséré des zones de maraîchage. Voilà, et donc, ça a continué à pousser. D'année en année, je multiplie le végétal, je densifie, je paille. Ça pousse de plus en plus. La charge de travail augmente de plus en plus. Et du coup, là, en ce moment, j'ai plutôt tendance à réduire les zones de maraîchage et me concentrer sur ce qui est vivace. Et je me concentre aussi, c'est un nouveau projet, sur une partie pépinière où je vais essayer de multiplier toutes les plantes que j'ai mises. Voilà.
Donc, tu en parles à la base, du coup, ce projet, je pense qu'il est né d'une passion que tu as pour tout ça. Est-ce qu'il y avait une idée ou un objectif derrière ce projet-là en particulier, hormis le plaisir, du coup, d'avoir ça chez toi ?
Alors oui, c'est clairement une passion et je pense que ça, c'est pas nouveau. Depuis que j'ai chez moi avec un extérieur, je cultive, je plante, je bouture. Après, moi, il y a vraiment cette idée des générations futures. Je pense qu'on est tous assez lucides pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer, qu'il va vraiment falloir réfléchir à comment se nourrir demain. Et demain, c'est bientôt. Et je suis maman, donc je suis obligée d'y penser d'autant plus. Donc, au-delà d'un métier qui me fait vivre, c'est aussi un projet à long terme, un projet de vie. Et c'est vrai que tout chez moi tourne autour de ça. Au-delà des ventes ou quoi, c'est vraiment, le soir, je m'endors, je pense à ça, j'imagine des choses, voilà. Et vraiment avec en arrière-pensée ce côté pouvoir nourrir les gens. Voilà.
Et quels sont les principes fondamentaux que tu mets en avant dans ce projet-là ?
Alors, ça a été un peu graduel. Donc, la première année, d'abord, je me suis intéressée au jardin-forêt. Donc, le fait d'associer des cultures, les associer pour leurs propriétés. Donc, il y a des plantes qui vont être bonnes compagnes, qui vont nourrir le sol, qui vont éloigner certains nuisibles. Mais aussi les associer en hauteur. Pour que sur un même espace, finalement, on puisse densifier et qu'elles ne se concurrencent pas en termes de lumière. Donc voilà, c'est pour ça que moi, dans mon verger, il y a des zones, c'est vraiment sous forme d'allées. Alors, ce n'est pas rectiligne, mais plutôt, il y a des courbes. Mais c'est sous forme d'allées paillées. Et on va retrouver à chaque fois, en arrière-plan du massif, des grands arbres, des arbres fruitiers, des légumineuses ou juste des arbres utiles à la biodiversité. Après, juste devant, on va retrouver la strate des petits fruits ou des arbustes comme les noisetiers, des amélanchiers, des plantes à baies. Juste encore un peu devant, on va retrouver tout ce qui est plantes aromatiques. Et après, moi, je mets aussi des petites fleurs. Il y a aussi parfois des légumes perpétuels. Voilà. J'essaye d'intercaler, d'utiliser vraiment tout l'espace. Et d'année en année, en fait, c'est un hectare, c'est quand même grand. Et donc, je n'ai pas pu tout planter directement, mais je continue d'année en année à densifier mes cultures. Voilà, donc ça, c'est un premier principe, celui de la première année, donc faire des cultures, préparer des cultures multi-étagées où j'ai fait vraiment le design du lieu, où j'ai planté les arbres arbustes et plantes aromatiques. Après, quand j'ai intégré le maraîchage, donc on va dire que c'était en deuxième année, là, je me suis formée au maraîchage sur sol vivant. Ça veut dire un maraîchage où on ne va pas travailler le sol, on va essayer de le respecter, la vie du sol au mieux. C'est vraiment une autre démarche. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup parce que je pense qu'on a, avec les pratiques agricoles enseignées jusque-là, on a abîmé nos sols, on a perdu beaucoup de fertilité. Au lieu d'aggrader le sol, de l'améliorer, on l'a dégradé. Et si on veut une agriculture durable, il faut vraiment essayer de réfléchir à de nouvelles pratiques. Alors, c'est une solution. Moi, je peux juste attester que ça fonctionne chez moi. Mais après, je ne sais pas si ça pourrait être applicable à toutes les cultures. Ça, je ne suis pas compétente là-dessus. Mais en tout cas, à mon échelle, avec du maraîchage, des arbres fruitiers et des petits fruits, à Boulk, en tout cas, ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de ne pas travailler le sol, mais ce n'est pas juste ne pas travailler le sol, ça veut dire le nourrir, amener beaucoup de matière. Donc, c'est vrai que c'est assez consommateur en broyat, fumier, foin, paille, je mets un peu ce que je trouve. Donc, ça demande quand même, au début, pour redynamiser les sols, pas mal d'apports. Et après, on va dire qu'il faut 1 à 2 ans avant que la vie du sol s'habitue, réussisse à digérer toute cette matière. Et après, finalement, donc les vers, toutes les petites bestioles qui sont dans le sol qui vont digérer la matière que j'apporte et c'est elle qui va aérer le sol et le nourrir. Donc c'est vraiment je nourris le sol et le sol en digérant tout ça va nourrir mes plantes, c'est pas je nourris mes plantes. Et ça c'est vraiment différent de ce que j'ai appris jusque-là. Voilà, donc ça c'est la partie maraîchage, donc on va dire en deuxième année. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Chaque année, en fait, j'essaye d'explorer une thématique. Je n'ai pas pu tout faire tout de suite parce que c'est tellement vaste que voilà, j'y vais étape par étape. Et par exemple, l'année dernière, j'ai suivi une formation d'hydrogéologie régénérative. C'est comment utiliser les écoulements de l'eau au mieux pour la répartir de façon intelligente, essayer de moins la gaspiller possible, limiter l'érosion. Donc ça, c'est un nouveau volet qui s'ouvre à moi. Je réfléchis à comment faire des aménagements. Voilà, chaque année, il y a un petit bonus en plus. Et aussi, cette année, j'ai suivi une formation de pépiniériste. Et donc, je l'ai un peu dit avant, mais j'aimerais vraiment pouvoir multiplier mes plantes vivaces pour que les gens plantent chez eux. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Après, voilà, je me pose beaucoup la question de l'utilisation du terreau et des godets en plastique. Donc, je réfléchis à des solutions. Je n'ai pas encore la réponse, mais...
Et en parlant de pensée, est-ce que tu... pense, moi, quand je t'entends, ça se voit que tu as une vraie connaissance par rapport à tout ce qui est de favoriser la biodiversité, de prendre soin de nos terres pour pouvoir justement produire un développement agricole différent. Est-ce que tu penses que les gens sont sensibilisés en fait à tout ça ?
Alors oui, dans le Diwa, clairement. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans un environnement, dans un bassin qui est sensibilisé à ça. Et des fois, j'essaye de me dire attention, c'est pas partout comme ça. Donc c'est vrai que moi ici, j'ai l'impression que que mes clients comprennent ma démarche, que j'ai pas besoin de me justifier, que je suis soutenue là-dedans. J'ai l'impression que beaucoup d'agriculteurs dans le Diwa vont un peu dans cette lancée du bio, du respect de la biodiversité et tout ça. Mais voilà, j'ai aussi en tête qu'on baigne dans cet environnement et que ce n'est pas forcément représentatif.
Et c'est une pratique agricole du coup assez innovante, tout ce que tu proposes. En quoi, pour toi, ça l'est tout particulièrement ?
Alors déjà, c'est innovant, donc ça veut dire qu'on n'a pas l'habitude de faire comme ça. Et c'est vrai que d'habitude, on a tendance à voir, par exemple, des vergers où le sol va être travaillé, labouré, désherbé. Il faut que ce soit tondu à ras. Et c'est vrai que moi, ça n'a rien à voir. Moi, c'est vraiment le sol, il n'est jamais nu. Moi, ça me fait mal au cœur de voir un sol nu. C'est peut-être poussé à l'extrême chez moi, mais voilà, je fonctionne comme ça. Et donc voilà, moi, j'ai tendance à tout recouvrir, à laisser aussi des zones de jachère. Je fauche que des petits passages en bordure de mes massifs, juste de quoi passer à pied. Et le reste, je le laisse pousser. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Il fallait que ce soit propre. Et moi, le propre, c'est des déserts, en fait. C'est des déserts. Donc je pense qu'avec pas grand-chose, on a moyen de favoriser vraiment la biodiversité. Un petit peu d'eau, des tas de pierres, des tas de bois, des jachères, voilà. Donc, c'est pas vraiment innovant parce que je pense qu'il y en a qui faisaient ça il y a bien, bien, bien longtemps, mais il fallait juste s'en souvenir.
Innovant un peu à notre époque, voilà. Surtout. Est-ce que tu as des idées de démarches, justement, que des particuliers pourraient envisager ou faire pour justement produire faire de la production agricole innovante ? Dans quel sens on pourrait aller pour ça, en fait ?
Ah oui, j'ai plein d'idées. Alors là, comme ça, tout de suite, je dirais qu'en cette période, on peut déjà ramasser des graines. Moi, il y a plein de graines à portée de main qui tombent aux oubliettes. On pourrait déjà se réapproprier nos propres semences. Moi, en me baladant dans la nature, je trouve plein de choses à l'heure actuelle. Même dans les jardins, on peut aller demander à nos voisins, est-ce que voilà, je peux te prendre cette graine de fleurs ? Voilà, ramasser les graines, être plus autonome, produire nous-mêmes nos plants à partir de nos graines. Après, ça peut être aussi laisser donc des zones de jachère, prévoir un petit coin du jardin où il y a un petit point d'eau, si possible une petite mare. On peut associer les plantes, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Plein de choses. Le compost, évidemment. Alors moi, je fais même plus de compost, je paille directement avec mes déchets ménagers, et ça va très bien. On peut garder son urine. Même si moi, je n'ai pas le droit légalement de l'utiliser en agriculture, à l'échelle d'un particulier, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Il suffit juste de le diluer au 20e et ça fait un engrais fabuleux, que ce soit pour les plantes d'intérieur ou pour le potager. Il y a aussi toute la partie nichoir. Là, j'ai installé, je pense qu'il y a entre 60 et 80 nichoirs dans le verger. Et on a construit là des totems à nichoirs. Je pense qu'avec un peu de bois de récup, ça peut être du bois de récup si possible, pas traité, on peut faire des petits nichoirs, des nichoirs à chauve-souris. On peut faire récupérer dans la nature aussi des tiges à moelle, des plantes qui font des tiges à moelle. Et on en fait des fagots, ça attire les abeilles solitaires. Voilà, il y a plein de petites choses, je disais tout à l'heure. Il y a aussi les tas de pierres qui vont attirer, par exemple, tout ce qui va être lézards qui ont besoin de chaleur. On peut faire des tas de bois qui vont attirer d'autres bestioles. Donc, c'est vraiment... les possibilités sont vraiment variées, mais je pense que ça demande d'accepter un certain désordre. Et encore que je ne trouve pas que ce soit si désordonné que ça, mais voilà, les pelouses toutes vertes, toutes tondues, nickel. Enfin, pourquoi pas en avoir un petit peu, mais ça vaut le coup de laisser une place aussi pour tout le reste, pour pouvoir cohabiter.
Sur la baie Champêtre, tu as une serre assez atypique aussi.
Et oui, j'ai une serre bioclimatique.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que représente une serre bioclimatique ?
Et oui, déjà, c'est un super outil de travail. Donc, cette serre, elle a 2 ans maintenant. J'ai pu faire 2 saisons dedans. Alors, c'est une serre que j'ai construite avec mon mari et l'aide de 2 stagiaires. c'est une serre qui est enterrée, enfin semi-enterrée. Elle est enterrée d'un mètre pour bénéficier de l'inertie du sol. Il y a un mur côté nord qui est fait de pneus terre. Donc le côté nord, l'idée, c'est que ce soit un mur qui stocke la chaleur en journée et la diffuse la nuit. Alors on a fait le choix des pneus avec la terre parce qu'il nous fallait un mur quand même porteur. On voulait pas mettre du béton. On n'avait pas un énorme budget et c'est mon mari qui m'avait parlé de cette technique du pneu sol. On s'est renseigné, j'étais réticente au début d'utiliser des pneus, j'avais peur de ce que ça pouvait larguer et tout ça, mais j'ai réfléchi et en fait à un moment il faut aussi qu'on assume nos déchets. Et voilà, c'était une solution économique, en quelque sorte écologique, parce que ça réutilise des pneus, ça évite qu'on les crame. Voilà, et très efficace. Alors, c'était la galère pour le faire. On l'a fait, je crois que c'était mois de décembre, boue, neige, tout sale. Il était dans la pelle mécanique. Moi, je tassais la terre dans les pneus. On a commencé par devoir découper toute la partie haute des pneus pour pouvoir le remplir facilement. Donc, on a découpé 450 pneus, je crois, à la scie, avec une genre de scie sauteuse, là. On les a posés de niveau, remplis à la pelle mécanique, tassés. Je crois que ça nous a pris 2 semaines en tout. Mais bon, voilà, j'avoue que j'aurais pas envie de recommencer, mais je suis très contente du résultat. Donc ça, voilà, c'est pour le mur côté nord. Après, pour la structure, c'est une structure en bois qu'on a construit. Et on a mis des plaques en polycarbonate. À savoir que le mur côté sud, il est incliné à 60 degrés. Ça, c'est pour avoir... En fait, c'est pour que les rayons lumineux de l'hiver soient perpendiculaires à cette face, en fait. Parce que pour que ce soit hors gel, il faut essayer de capter au mieux les rayons lumineux en hiver. Et avec ces 60 degrés, c'est là où on est le plus efficace. Donc voilà, en gros, pour la structure. Et alors, c'est en semi-enterré, donc de 1 mètre, parce que c'est une serre qui me permet de faire des plants potagers. Et pour que les plants poussent bien, il faut qu'ils soient en pleine lumière. Donc, il ne faut pas qu'ils soient en dessous du niveau du sol. Donc, moi, en fait, j'ai des tables de 1 mètre de haut sur tout le pourtour. Et ça me permet de stocker une belle quantité de plants. Et donc, il y a des tables sur tout le pourtour. Et le milieu de la serre bioclimatique... C'est du sol, enfin de la terre, où j'ai des cultures pérennes, j'ai des agrumes, j'ai du goyavier du Brésil, figuier, curcuma, gingembre. Voilà, je teste des trucs, passiflore, enfin fruit de la passion. Alors, ils sont encore petits, mais j'ai déjà pu faire quelques récoltes, curcuma, gingembre notamment. Donc, j'avoue que ça, c'est plus la partie pour moi où je m'éclate. Et la partie, les tables de culture, c'est plus pour la vente de plants. Voilà.
Ça te permet d'avoir quelque chose à l'année, en fait.
Toute l'année, ouais. Et qui est finalement, c'est une serre qui est tempérée. Donc, l'été, j'ai remarqué qu'elle était plus fraîche, que les autres serres tunnels. Et l'hiver, en fait, elle est naturellement hors gel, alors que je suis à 830 mètres d'altitude et que parfois, il gèle vraiment fort. Et ça n'a pas gelé encore une seule fois à l'intérieur. Donc, mes agrumes se portent bien. J'ai pu en goûter quelques-uns. Et voilà, donc c'était vraiment l'outil nécessaire dans mon cas pour la vente de plants. Et là, pour mon projet de pépinière, ça va m'aider aussi.
Tout à l'heure, tu as évoqué ton mari et des stagiaires qui t'ont aidé justement pour la construction de ça. Combien de personnes participent à la vie de l'abbé Champêtre ?
Alors, plusieurs personnes. Alors, mon mari, lui, il a son entreprise de son côté, son auto-entreprise de son côté. Mais il m'aide régulièrement, surtout sur les tâches, les travaux, en fait. Dès qu'on a des nouvelles constructions, il est là. Après, on avait calculé à l'année, ça fait quand même, je pense qu'il doit m'aider à peu près un jour par semaine. Après, lui, il ne travaille pas à plein temps à côté, ce qui lui permet d'être assez disponible pour moi. Et c'est vrai que c'est précieux, ce temps-là. C'est vraiment précieux parce que ce n'est pas toujours simple d'être seule pour tenir ce projet, même si je suis passionnée. Du coup, il y a mon mari qui m'aide un jour par semaine, même si ce n'est pas de façon régulière. Parfois, il va m'aider une semaine complète et puis plus pendant quelques semaines. Et après, je prends régulièrement des stagiaires. Cette année, je pense que j'en ai 2024. Alors, je m'arrange pour qu'ils ne soient pas en même temps, mais voilà, ça fait quand même une bonne aide. Et puis, ça me permet, c'est chouette parce que ça me permet de dégager du temps pour être dans la transmission.
C'est ce que j'allais dire, ça doit être super chouette aussi de transmettre tes savoirs et toutes ces choses qui t'animent au final et qui sont, comme tu disais, pour le futur de demain, des choses auxquelles on doit penser aussi.
Et oui, carrément. C'est vraiment une partie qui me plaît, mais bien souvent, je me sens déjà bien occupée, je ne me sens pas disponible pour cette partie sans avoir une sensation de surcharge. Et c'est vrai que quand j'ai un stagiaire, ça me permet de dégager du temps et de mêler l'utile à l'agréable.
Comment tu les trouves, tes stagiaires ?
Alors, je ne les trouve pas.
Ils viennent à toi ?
Ouais, en général, c'est eux qui me contactent. Alors, bien souvent, c'est avec le CFPPAD, mais pas que. Là, j'ai quelqu'un qui vient d'Ariège, qui commence la semaine prochaine. J'ai eu des personnes de Gap aussi, mais c'est souvent par des CFPPA. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le nom CFPPA, mais des structures qui proposent des diplômes agricoles.
Et c'est sur combien de temps, du coup, les périodes de stage ?
Alors, c'est variable. Ça dépend des personnes parce qu'il y en a... En général, je crois qu'ils ont peut-être une petite dizaine de stages à faire, une dizaine de semaines de stage à faire. Et il y en a qui décident de les faire en plein chez moi. Il y en a qui veulent voir plusieurs choses. Donc, c'est vraiment variable. Et souvent, ce n'est pas en un seul bloc. C'est une semaine par-ci, une semaine par-là. Donc voilà, c'est un petit... on s'organise, quoi.
Et les missions que tu peux donner aux stagiaires, elles sont du coup assez variées par rapport à toutes les actions que tu dois mener sur la baie Champêtre ?
Et oui, elles sont assez variées, mais il peut aussi arriver que... c'est déjà arrivé, s'ils viennent en hiver, peut-être que pendant une semaine, on va mettre de la paille, du broyat et du fumier de partout. Voilà, c'est aussi une réalité de mon métier. Et à côté de ça, il y a des semaines où on va faire de la récolte de plantes aromatiques, la confection de crème de marron, des semis dans la serre bioclimatique. C'est vraiment... chaque année, j'essaye de m'installer une routine, mais clairement, ce n'est pas possible. C'est trop diversifié pour le faire. Et ce n'est pas grave. Mais du coup, c'est compliqué pour moi de dire à l'avance ce qu'ils vont faire. Et puis, ça dépend aussi de la météo. Voilà.
Quels sont les défis premiers auxquels tu peux faire face en ayant construit quelque chose comme ça ?
Les défis premiers, alors, en ce moment, je le vis de plein fouet, mon défi premier, c'est de me tirer un salaire. Donc, c'est une réalité. Pourquoi c'est mon défi en ce moment ? Parce que j'ai demandé les aides à l'installation. Donc, la DGA, ça s'appelle. C'est un engagement sur 4 ans. Et donc, j'ai eu une somme qui était assez sympa, qui m'a aidé à faire justement la serre bioclimatique et d'autres investissements. Mais en contrepartie, je m'engage à me sortir un SMIC au bout de 4 ans. Et honnêtement, ce n'est pas si simple en agriculture. Clairement, mon taux horaire, il n'est pas énorme. Mais je vais y arriver, je pense vraiment y arriver, mais j'ai cette pression qui me pèse un peu sur les épaules et j'ai hâte de sortir de cette période parce que honnêtement, je vis bien avec mon mari et mes filles. On n'est pas, on ne met pas forcément beaucoup d'argent de côté, mais on n'est pas pauvre, on peut se faire plaisir quand il y a besoin. Et j'avoue que cette pression du salaire, je n'en avais pas forcément besoin. Je ne l'avais pas vu venir, je ne l'avais pas anticipé, mais je serai contente quand ce sera passé. Donc ça, c'est le premier défi à relever. Deuxième défi, c'est de proposer un modèle agricole qui soit autonome et résilient. Alors moi, je crois beaucoup en ce que je fais, mais j'attends d'avoir assez d'années d'expérience pour en être sûre. Et je vois aussi, par exemple, on parlait du maraîchage sur sol vivant. Donc, c'est une technique qui nécessite beaucoup d'apports, broyat, fumier, paille. Et clairement, pour le moment, je fais appel à des copains agriculteurs du coin. Donc, je ne suis pas autonome là-dessus. Et c'est vraiment une partie que j'aimerais améliorer. Donc, je cherche des solutions. J'ai mis pas mal de plantes qui vont me permettre de réduire mes achats de paille et de foin, je mets de la consoude, je mets des plantes que je pourrais broyer, je mets du sol. Donc voilà, je réfléchis à des solutions, mais c'est vrai que si tout le monde, tous les maraîchers se mettaient à faire du maraîchage sur sol vivant à l'heure actuelle, ça ne serait pas possible. Il n'y a pas assez de ressources pour le moment. Enfin, on n'est pas, voilà, c'est pas dimensionné pour. Donc je pense qu'à refaire maintenant, avec quelques années de recul, je pense que si quelqu'un se lance avec un projet de non-travail du sol, de paillage, il faut vraiment prévoir dans son design des zones faites pour le paillage, qui serviront aux cultures. J'ai presque envie de dire moitié-moitié, quoi. Donc c'est pas rien, et c'est vrai que moi je l'ai fait dans le sens inverse. Je vais m'arranger, mais ça aurait été plus simple de l'anticiper. Donc voilà, un deuxième enjeu, c'est ce côté résilient, être autonome, m'autosuffire, ne pas dépendre d'intrants. Donc d'année en année, je réduis et j'espère... à la fois, c'est chouette de faire vivre les autres agriculteurs, et à la fois, j'ai vraiment envie que mon système soit cohérent.
Alors tout à l'heure, tu parlais un petit peu des produits que tu crées et que tu proposes, notamment sur ton site internet que je suis allée voir et qui est vraiment surprenant et très vivant. Hein, donc je le conseille à chacun. Vous le trouvez en tapant l'abbé Champette sur Google, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ces produits que tu crées, que tu distribues également sur le territoire, donc via certaines structures, certaines boutiques, tu fais peut-être aussi un peu les marchés?
Alors, essentiellement, moi, je commercialise dans les magasins du territoire, un peu aussi à la ferme, et de temps en temps les marchés. J'avoue que je peine à trouver du temps pour le faire. Ben là, j'en ai fait un hier, mais ça faisait plus d'un an que j'en avais pas fait. Donc là, je vais, pour Noël, je vais essayer d'en faire quelques-uns, mais j'ai du mal à trouver le temps, et puis c'est une vraie logistique. Mais voilà, essentiellement dans les magasins.
Est-ce que tu peux nous citer les magasins où on retrouve tes
Alors,
produits?
Oui, dans le Diois, j'espère ne pas en oublier, pardon. Au pire, c'est écrit sur mon site internet, la liste. Il faut que je remette à jour d'ailleurs la liste. Alors là, à Luc en Diois, je suis chez Caro. Je suis au panier, à mon panier délices que je vais livrer juste après pour la première fois. Sur Châtillon, je suis chez Delphine derrière la fontaine. Je suis aussi à Super U, au Silo, à Saveur du Terroir, à La Vie Claire, à Proxilus, la Croix-Haute. Après, je suis au Refuge d'Archiane, chez Jean-Luc. À Aguila, c'est un lieu de stage sur Boulk. À La Salamandre, chez Luc, mon voisin. Un super lieu d'accueil aussi. Puis à La Carline, je vais jusqu'à Oust aussi.
Mais ça fait déjà pas mal, c'est chouette.
Oui, c'est chouette.
Que carrément. Tu commercialises vraiment sur une bonne partie du territoire et pas seulement à proximité de chez toi, quoi.
Eh ben, ouais. Mais je crois que pour en vivre, il n'y a pas trop le choix. Il faudrait que je démarche encore 2-3 magasins. Mais là, j'ai des contacts. Mais voilà. Et là, ça devient assez confortable en termes de commercialisation pour moi. J'ai mon petit réseau. L'enjeu maintenant, c'est de pouvoir les fournir toute l'année sur ma gamme. J'y arrive pas sur toutes les références.
Quelle gamme tu proposes ?
Alors, je propose, j'ai des tisanes, j'ai 4 mélanges de tisanes. Après, je vais avoir des aromates sèches, donc un sel aux plantes. Enfin, j'ai 2 sels aux plantes, un typé plante méridionale, un plutôt connoté pour le poisson. Donc, c'est des plantes médicinales que je cultive chez moi, que je sèche et que je transforme. Après, idem pour les tisanes, c'est des plantes cultivées ou en cueillette sauvage. Après, je vais avoir tout ce qui est produit pour l'apéro. Genre des pestos frais d'ail des ours, pestos pasteurisés d'ail des ours, confit d'oignons, pickles de betterave, courgettes apéro. C'est des courgettes aigre-doux ou curry. Concombrichons. Alors, le nom en général fait rire. C'est des concombres transformés comme des cornichons, comme les tranches de cornichons qu'on trouve dans les burgers. Je vais avoir du crocaille, c'est des gousses d'ail au vinaigre, croquantes mais pas piquantes. Je vais avoir du ketchup du pré. Voilà pour la partie apéro. Et après, je vais avoir les transfos sucrés, toutes les confitures de petits fruits. Donc, il y a framboise, cassis, groseille, mûre, groseille à maquereau, crème de marron. Voilà. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près toute la gamme. Pareil, c'est disponible, la liste est disponible sur le site internet. Après, voilà, c'est une gamme qui peut évoluer. Ah, j'ai pas parlé du bouillon poudre. Il faut que j'en parle parce que vraiment, hier, il y a eu un phénomène sur ce marché. Presque tous les clients m'ont pris un bouillon poudre et je ne m'y attendais pas du tout. Donc, ça m'a fait plaisir parce que c'est un produit qui est ni sucré ni gras, plutôt santé. Donc, voilà, c'est un produit auquel je crois et qui marche bien, semblerait-il. Voilà.
Très chouette, ça donne envie. En tout cas, tout ça. J'ai pu apprendre également que tu organisais des fois des journées portes ouvertes, une visite à un peu de ton verger maraîcher, avec possibilité donc d'acheter les produits que tu viens de nous citer juste à l'instant. La dernière, elle a eu lieu au mois de mai cette année. Est-ce que tu penses en proposer sur l'année 2023 ?
Et oui. En fait, l'idée de la porte ouverte a été décidée parce qu'en fait, au mois de fin avril-mai, je propose à la vente des plants potagers, de fleurs, d'aromates. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit « je viendrai les chercher, je veux bien venir voir ce que tu fais ». Et là, au bout de 12 personnes, je me suis dit « là, ça ne va pas être possible parce que à chaque fois que j'accueille quelqu'un, c'est chouette, mais ça me bloque dans mon travail ». Donc j'ai dit « je vais organiser une porte ouverte, je vais mutualiser ce temps et proposer des vraies explications complètes ». Où les gens pourront venir récupérer leurs plants, ceux qui n'ont pas commandé pourront venir en prendre. Je pourrais faire goûter mes produits et je pourrais faire visiter mon lieu. Donc là, on l'a fait le 7 mai, je crois. Et c'était vraiment chouette, c'était vraiment sympa, toutes générations confondues. J'étais étonnée de voir du monde alors que donc à Boulk, c'est quand même pas la porte à côté. Mais voilà, c'était vraiment un chouette moment et je le referai avec grand plaisir cette année.
N'hésite pas à nous contacter. Je pense que RDOA sera ravi d'être là sur place le jour J. Et pour finir, est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais porter aujourd'hui au micro de RDOA ?
Oui. Alors là, tout de suite, j'ai envie de parler de la cause des femmes dans l'agriculture. C'est pas si simple d'être une femme dans le monde agricole. Alors ça va mieux. Au début, ça m'a beaucoup déstabilisée quand les gens venaient dans mon verger et me connaissaient pas trop. Et si mon mari était là par malheur, on lui parlait à lui et pas à moi. Si on avait des questions à poser sur la cervio-climatique ou le géodôme qu'on a fait, on posait des questions à lui et pas à moi. Ça va mieux, mais c'est encore un peu dans les mœurs. Et c'est pas simple maintenant. Bon, ça va mieux, j'ai moins besoin de faire mes preuves, mais il y a encore du chemin à faire pour la reconnaissance des femmes dans ce milieu-là. Donc, les filles au boulot, il y a plein de projets à mettre en place, il faut vraiment oser. On a de la ressource et je pense que l'énergie féminine est nécessaire. Voilà.
Merci beaucoup.
Don't say nothing, no. I can see when you're lying. We forget. We all have dreams, we forget.